Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un nouvel épisode de notre très attendue et riche série, L'écologie aux petits oignons. La série qui emprunte les mirettes d'humains passionnés de ces multiples êtres peuplant notre planète. À chaque épisode, nous tendons la feuille et l'oreille pour que l'humain, dans toute sa diversité, nous parle de sa vision du vivant. Cette semaine, nous gravissons la cime des arbres à la rencontre d'un passionné de ces géants à feuilles. Peux-tu te présenter pour nos auditrices et auditeurs ?
Je suis Jean Évrard, je suis arboriste grimpeur depuis 9 ans. J'ai fait des études parce que mon père est un ingénieur et en gros, il fallait absolument faire des études. Je ne savais pas quoi faire quand j'étais jeune. Et ayant un bac ES, je suis parti vers la géographie, qui était justement la science de la nature accessible avec mon bac. Plus j'avançais dans les études, plus c'était intéressant. Et puis j'ai fini par partir avec des archéologues faire du traitement d'images satellites au Soudan. Et donc c'est ça qui m'a donné le déclic vers le métier vers lequel je me dirigeais, donc les systèmes d'information géographique. En fait, j'ai commencé par l'imagerie satellitaire, quoi. Et du coup, j'ai fait un master d'informatique à Saint-Étienne, spécialisé dans le SIG. J'ai trouvé un stage dans la Vénois, dans le parc naturel régional de la Vénois, dans lequel j'ai été embauché après mon stage. Et puis j'y suis resté 7 ans, peut-être. Et là-bas, ça m'a permis de faire tout le tour de tout ce qui traite aux données, majoritairement des données nature, enfin, en lien avec la nature, mais aussi socio-économique. On essayait de cartographier des données sociales. Je travaillais sur un outil décisionnel, le SIG, enfin les SIG. Et finalement, dans un parc naturel, qui est quand même un gros truc, hein, 140 communes, c'était un gros truc. Hein, je pensais pouvoir avoir de l'influence grâce à la donnée, mais en fait non, parce qu'il y a quand même un projet politique, et donc il y a un politique, et donc à un moment, on ne peut pas dire ce qu'on veut, il faut orienter, il faut... Voilà, les données, on les travaille, avec une donnée, on dit ce qu'on veut. Et puis un jour, j'ai commencé à transpirer du bras. J'avais une odeur très acide qui émanait de mes bras, que moi seul sentais d'ailleurs, puisque ma compagne de l'époque ne le sentait pas. Mes collègues qui venaient bosser avec moi, j'étais gêné. Je m'auto-gênais en fait. Et j'ai pris conscience que il fallait que j'arrête, il fallait que je change, il fallait que je m'écoute. Parce que du coup, j'avais une forme de prise de conscience, pas complètement consciente, mais qui me poussait à changer, en fait, à partir vers quelque chose de plus épanouissant. Voilà, donc j'ai arrêté carrément sans savoir ce que j'allais faire, et puis je me suis dit, on verra bien. J'avais un peu de chômage, du coup. Je retapais une terrasse avec mon frère, comme ça, chez les amis. Et puis j'ai vu un mec grimper, et c'était un beau gosse avec des cheveux longs. Je me suis dit, tiens, ça... Enfin, c'est pas la question du beau gosse, c'est la question que, pour moi, c'était un métier de bourrin, un peu, quoi, l'image du bûcheron, machin... un peu tous dans le même panier, quoi, et en fait, je suis allé le voir pour dire, vas-y, ça a l'air bien ton métier, je l'ai vu grimper dans les arbres, ça m'a un peu fait rêver. Et puis voilà, il m'a dit, écoute, viens bosser avec moi, tu verras si ça te plaît. Et puis je suis allé faire 3 semaines de boulot avec lui. Alors c'est vraiment un aparté, hein, ça. Et en fait, la déclaration au RSA, c'est une déclaration trimestrielle. Du coup, j'ai bossé avec lui, j'ai gagné 600 euros. Pendant 3 semaines, je déclare donc que j'ai gagné 600 euros au mois de septembre. Et résultat des courses, ils m'ont enlevé les 600 euros sur les 3 mois de versement suivant. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 450 euros par mois, je me suis retrouvé avec 200 euros en moins tous les mois pendant 3 mois, puisque j'avais travaillé. Donc voilà ce que c'est que le système RSA. C'est un aparté, mais c'est quand même intéressant parce que les gens disent « Ah, le RSA, mais tout est fait pour laisser les gens au RSA. » Moi, c'était un passage comme ça. J'étais en fin de droit de chômage, justement. Du coup, je me suis renseigné sur les formations. J'ai intégré le CFPPA de l'Homme. C'est une bonne formation, un bon niveau. Ils sont plutôt orientés arboristes que élagueurs. Enfin, en tout cas, ils sont respectueux des arbres quand même, vachement. Et c'est une bonne formation. J'ai fait un certificat de spécialisation taillé soin des arbres. Voilà ce qui m'a permis après de t'agrimper. Puis j'ai créé ma boîte plus tard. Le projet, c'est que j'avais pas d'argent à mettre sur la table. Donc il a fallu que je travaille un peu, ce qui n'était pas plus mal, me faire un peu d'expérience. J'ai travaillé peut-être un an ou deux pour deux employeurs différents. dont un qui était pas très respectueux, donc c'était vachement intéressant aussi de voir tout ce qu'il fallait pas faire, tout ce que j'avais pas envie de devenir, quoi. Donc je voulais créer ma boîte, parce que de toute façon, quand j'ai quitté mon premier emploi, je voulais plus de patron, je voulais me débrouiller, je voulais décider. Là, j'aurais pu faire une boîte de SIG aussi, mais ça me disait moins. J'avais plus envie de me rapprocher de la nature, beaucoup plus. Je me rends compte que je change plus le monde, alors, entre guillemets, hein, à toute petite échelle, mais aujourd'hui dans mon métier, puisque je suis au contact des gens, des humains et des arbres, qu'avant dans un métier qui était axé sur un outil décisionnel, quoi, à la plus grande échelle. Alors aussi évidemment parce que j'ai la main sur mon activité et quand je vais voir les gens, je leur explique pourquoi, enfin je leur dis ce que moi je préconiserais, ce qu'il faut faire, pas faire, et je les autorise pas à me dire ce que je dois faire. Je leur explique toujours pourquoi il faut pas faire ça, pourquoi il faut faire ça. La taille des arbres, c'est vraiment un truc à part, quoi. C'est très technique. Quand on est puriste, il y a plein de choses à respecter, notamment les angles de coupe. Alors d'abord les périodes, hein. Il faut respecter les périodes de taille. Donc là, contrairement à ce que pensent les gens en général, ça commence à changer, mais on taille les arbres en sève, donc printemps-été, non pas en hiver. En hiver, c'est les tailles en têtard, tête de chat. Donc tout ce qu'on va taïwaner, qu'on va recouper, remettre à nu parce qu'il n'y a pas de place, parce qu'il y a des problématiques liées à ça. Donc ça permet de garder un arbre quand même, tout en maîtrisant son houppier, puisqu'on le remet à nu tous les 4-5 ans. Quoi. Alors on pratique ce genre de taille hein, en ville, enfin, y a plein d'arbres qui sont de toute façon en tête de chat ou en têtard, donc il faut bien les retailler tous les 4-5 ans. Ou alors on les laisse tranquilles comme les platanes là devant, sur la place du rivage. Qui ont été taillés plusieurs fois en tête de chat, et finalement maintenant, apparemment, il les laisse tranquilles. Alors moi, je ne ferais pas ça, c'est-à-dire que moi, en général, je peux sortir de ce type de taille. Je retaille une fois en hiver, comme ça, on remet tout à nu. Et comme ça, à N+1,5, je viens retailler en sève pour faire une sélection des rejets, pour pas qu'il y en ait trop, ça fait des balais brosses. Et du coup, on arrête avec ce type de taille. On revient à un port à peu près normal. Alors, c'est jamais normal, hein, mais le port, c'est quand même l'arbre qui le décide, quoi.
Qu'est-ce que le vivant signifie pour toi? Saurais-tu le décrire en trois mots? Un goût, une odeur, une couleur, une texture, un son?
Pour moi, le vivant, c'est ce qui vibre. Je suis un peu fan de Bruce Lee. L'eau qui dort pourrie et l'eau de la rivière reste pure parce qu'elle coule, quoi. Et c'est vraiment ça. Pour moi, le vivant, c'est le mouvement, en fait. Et d'ailleurs, quand on change d'échelle, alors peut-être le minéral quand même est plutôt figé, mais tout est plus ou moins, tout bouge, quoi. Enfin, le tout petit, du microscopique, enfin les cordes, les super cordes, ces choses-là, c'est, en fait il y a plein de choses qui vibrent dans ce qui bouge pas, quoi. D'ailleurs c'est la grande question, d'où part le vivant? D'où part l'impulsion qui donne le mouvement? Puisque ça, personne aujourd'hui, à l'état de la science, ne peut y répondre, quoi. On sait pas d'où vient ce qui vibre. Si c'était une texture, j'avais envie de dire doux, mais comme dans le vivant, il y a aussi les humains, je pense pas que ce soit approprié. Je dirais texturé, du coup. C'est-à-dire que ça peut prendre plein de textures, ça peut être lisse, ça peut être rugueux, ça prend plein de formes. De toute façon, le vivant, c'est tellement vaste, non, on saurait pas la ramener à une texture. Une couleur, je mettrais le jaune pour le soleil, parce que sans lumière, y a rien, quoi. C'est vraiment compliqué comme question, parce que c'est résumé à un truc qui est énorme et infini. On met déjà tout dans des boîtes, alors c'est vraiment une question difficile. Le goût, j'ai envie de parler de l'eau, parce que dans le vivant, il y a aussi vachement l'eau qui est présent. Donc je dirais le goût de l'eau, une odeur. Justement, je trouve qu'en fait, ce serait plutôt pas d'odeur, même s'il y a plein d'odeurs. Mais je trouve que ce qui est plus odorant, c'est ce qui nous dérange, donc c'est ce qui vient de l'activité humaine. En fait, toutes les odeurs sont finalement douces et agréables, à part celles qu'on crée nous, quoi. Enfin, je pense à la pollution, mais aussi aux nuages, enfin tout ce qui est un peu chimique, aux porcheries, quand il y a trop de bêtes au même endroit, enfin des choses comme ça, quoi. Où là, en effet, après, ça devient nauséabonde. Mais c'est intéressant, parce que du coup, il y a un parallèle peut-être à faire entre l'odeur de quelque chose et la façon dont on traite justement le vivant. Le son, c'est pareil, comment réduire le sol, tout simplement. Ça marche pour le sol OL et puis le sol SAULE. Dans mon ancienne vie professionnelle, en fait, on cherchait à rendre visible ce qui est invisible dans l'imagerie satellitaire. Donc on attribue des couleurs, des fausses couleurs à des choses, des objets, des objets géographiques qu'on va représenter. Et ça nous permet du coup d'aller voir d'une certaine manière ce que nos yeux ne nous permettent pas de voir. Donc on va sortir de nos longueurs d'onde du visible pour aller vers l'invisible. Et dans les sons, je pense que c'est pareil. C'est-à-dire que aujourd'hui, est-ce qu'un arbre, un arbre se plaint jamais, un arbre il ne crie pas, il se manifeste pas, d'ailleurs d'aucune façon, à part peut-être en dépérissant quand on lui fait du mal, mais tout passe quoi. Mais est-ce qu'en fait, est-ce qu'il n'émettrait pas des sons qu'on n'entendrait pas tout simplement ? On sait très bien que nos sens sont très limités. Et on voit bien même que des animaux entendent des choses qu'on n'entend pas. Donc.
Et qui joue dans toutes les langues pour mieux parler de l'amour pendant que le monde se...
Comment retranscris-tu cette vision du vivant dans tes projets ?
J'ai la chance avec mon métier d'aller chez les gens, donc aussi bien des particuliers, des collectivités, des sociétés. Mais je vais rencontrer les humains pour parler des arbres. Puisque quand on m'appelle, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Donc, que ce soit un arbre gênant, un arbre problématique, un arbre que les gens veulent absolument soigner, même si on est incapable de les soigner en Occident. C'est pour ça aussi que je trouve que c'est... À ma petite échelle, je suis plus à changer les choses actuellement dans mon métier d'arboriste grimpeur qu'avant dans la géomatique. Parce que je sensibilise les gens en fait au vivant, du coup. Il y a beaucoup de gens encore qui considèrent les arbres comme de l'ornement, de la déco. On est déconnecté du lien aux arbres. Récemment, j'étais chez des clients à moi et j'avais fait un devis pour tailler un gros noyer, un moyen. Et puis il y avait un petit pépère au milieu. Et quand j'ai fait le devis, le monsieur me dit ma femme elle l'aime pas cet arbre, faudrait l'enlever. Je lui ai dit, c'est dommage, en plus c'est une essence un peu rare, c'était un sapin bizarre et tout. Je lui avais dit, écoutez, on verra le jour de l'intervention, s'il faut le démonter, nous c'était un petit truc, ça prenait pas longtemps, un quart d'heure. Donc je lui ai dit, je le mets pas sur le devis, vous en discuterez avec madame, et puis on en reparle. Ok. Et le jour de l'intervention, elle me dit alors, je lui ai dit, pourquoi, enfin, faut ce problème cet arbre. Et elle savait pas, elle dit, je sais pas, il me dérange, pourtant j'aime bien les arbres, mais celui-là, je sais pas, il y a un truc. Donc je l'ai invité à aller discuter avec son arbre. Je lui ai dit, allez voir votre arbre et puis échanger avec lui. Et ce qu'elle a fait, et l'après-midi, elle est revenue me voir et elle m'a dit, mais vous avez raison. Et en fait, je me suis dit, on le coupe pas, j'ai décidé, on le coupe pas, parce que je me suis fait la réflexion, mais qui je suis pour décider du sort de cet arbre. Je le dis comme ça parce que c'est vraiment textuellement ce qu'elle m'a dit. Qui je suis pour décider du sort de cet arbre ? Sur, je sais pas, peut-être 1000 chantiers qu'on a fait, ça m'est arrivé une fois. Mais il n'empêche, c'est des moments très forts où là, on se dit, waouh ! Alors même que moi, j'avais hésité à l'inviter à aller voir son arbre, parce que ça paraît, c'est un peu bizarre. Vraiment, j'ai la chance de pouvoir parler des arbres aux gens, en fait. Et c'est eux qui m'appellent, donc c'est ça qui est génial. C'est eux qui m'appellent. Et du coup, je peux leur parler de leur arbre, ou de leurs arbres, et les préconiser, leur dire ce qu'il faut faire, pas faire.
De ma montagne à cheval, sorti de ma retraite en moigne, ma bouche, je déballe mon paluchon à froid dans la plus pure tradition, la maîtrise est totale, tel le ninja.
D'après toi, qu'est-ce que l'humain peut apporter à l'ensemble du vivant ?
Aujourd'hui, l'homme dérègle, détruit, colonise, depuis longtemps, mais c'est encore le cas. Et je pense que sur Terre, avec notre pouce et avec notre conscience, notre état de conscience, l'humain doit protéger la nature. Donc il va jouer son rôle, il a un rôle à jouer, mais plutôt de conservation, de bonne tenue de la nature, bonne tenue du vivant. Donc justement, je pense que l'humain devrait être le trait d'union, en fait, le régulateur, mais dans le bon sens. L'humain devrait prendre ses pouvoirs en main et se coordonner, c'est ça le plus dur, c'est que les humains sont ensemble et ils sont nombreux.
Attaque avec cas de chacal puant, un bon son brut pour les truands.
Celui qui nique ma zik, votre shit, les sales flics, chez nous se prennent des coups de prédateur.
On va passer à la question d'actu. L'épisode Feuille de Chou de la semaine précédente, en podcast sur le site de notre radio PFM 99.9, portait sur une étude scientifique nouvellement parue en mai dernier. Celle-ci étudie les relations arbres-champignons dans le contexte du dérèglement climatique. Pour rappel, les champignons, dits mycorhiziens, sont essentiels afin que l'arbre développe un système racinaire. Petite créature aux immenses filaments, ces champis du futur étendent les radicelles, petites racines de l'arbre jusque loin dans le sol, démultipliant le réseau sur plusieurs dizaines de mètres, développant ainsi le captage d'eau et de nutriments vitaux à la croissance de l'arbre, et de 9 végétaux sur 10 sous nos climats. Bien que cette étude soit réalisée en Amérique du Nord, les tendances sont cependant intéressantes, car la niche écologique, là où aime habiter le champignon, tendrait à devenir différente de son arbre compagnon. Or, un arbre sans champignon est un arbre démuni de sa capacité de développement. D'après cette étude, les arbres les plus touchés seront les résineux, les pins, les sapins, les mélèzes. On sait également que d'autres facteurs influent sur les relations arbre-champignon, et notamment avec les fongicides, les produits tueurs de champignons, que l'on retrouve dans diverses activités humaines, notamment l'agriculture et la sylviculture. À la lumière de ta vision du vivant, que penses-tu de tout cela ?
À partir du moment où on ne voit pas, c'est dans l'invisible, quoi. C'est-à-dire que les radicelles, il faut aller déterrer les racines pour aller voir les radicelles et après voir les champignons et voir ces mycorhizes. Mais nous, les champignons qu'on voit, ça va plutôt être les pathogènes. Et en plus, ça va même être les champignons, ça va être la fleur, enfin le carpophore, ça va pas être le mycélium qu'on va voir. Ou quand on coupe, en effet, il y a des arbres, on doit les démonter parce qu'ils sont dangereux, c'est tout. Même là, on voit rien, c'est-à-dire qu'on voit les tanins injectés par l'arbre, donc on voit que, suite à un épisode, une blessure ou des choses comme ça, en effet, il arrivera pas à se protéger contre les autres champignons, mais c'est pas, on sort des mycorhizes, quoi. On est hors de la symbiose, justement. Donc nous, on le voit pas, ça, en fait. C'est parce qu'en fait, grâce à ces champignons, mycorhiziens. Finalement, on pourrait presque dire que tous les arbres de la Terre sont connectés entre eux, puisqu'ils arrivent à aller très loin, etc., et qu'il y a des connexions, et qu'en plus, ils communiquent. Alors, les arbres, ils communiquent de différentes façons, justement. Il y a des nuages chimiques, mais il y a aussi d'autres choses. Les Indiens, avant de démonter un arbre, ils le prévenaient une semaine à l'avance, je crois, les Indiens d'Amérique, le temps que l'âme de l'arbre puisse partir. Moi, c'est un peu compliqué. Par contre, à partir du moment où j'ai le devis, du coup, je suis aussi missionné pour intervenir, et là, je fais ce que je veux. En général, j'appelle mon pépère. Alors, c'est peut-être un peu masculin, c'est pas macho, parce que les branches, je les appelle plutôt les mémères, les grosses branches. C'est plutôt affectueux, en fait, pépère, mémère. Et je lui tape toujours sur le fût pour le prévenir de ce que je vais lui faire. Donc, en fait, je lui dis, t'inquiète pas, mon pépère, je te fais une petite taille, c'est pour que tu sois tranquille. En fait, je m'excuse de la part des humains auprès de l'arbre. Et quand je dois le démonter, c'est pareil, je lui fais une sorte de mini-prière, ça prend 30 secondes, mais je le préviens et je le remercie de ce passage sur cette terre et que je lui demande de pardonner les humains. He was already 100
years old when I'm born. Already. On va passer à l'agenda librairie. Pourrais-tu nous communiquer les références ou des rendez-vous pour que nos auditrices et auditeurs en profitent également?
Donc le week-end prochain, 15 et 16 juin, va se dérouler le championnat de France d'élagage, donc qui est un championnat de grimpe, donc avec différentes épreuves. Ça se passe autour de la fête de l'arbre. En général, de toute façon, c'est la période un peu des fêtes de l'arbre un peu partout en ce moment. Donc en tout cas, je vous invite à aller voir si vous ne connaissez pas, c'est intéressant. C'est très technique, c'est de la grimpe vraiment pure, plus que de la sensibilisation aux arbres. Donc c'est à M, je crois. Allons-nous promener dans les bois. C'était une chanson de mon grand-père. Allons dans les bois, ma mignonnette. Allons dans les bois du roi. Monsieur le curé a défendu la chose. Allons dans les bois, ma mignonnette. Allons dans les bois du roi. Ne confiez pas vos arbres à n'importe qui, car l'intervention sur le vivant est irréversible. Même si les arbres sont toujours beaux parce qu'ils sont forts et qu'ils sont puissants, on ne se rend pas compte de l'espérance de vie qu'on leur enlève à chaque fois. Euh, respectons les arbres en les faisant tailler par des professionnels.
Tu y as pêché où, baobab, acajou ? Cet épisode, aux côtés d'un funambule des hautes branches, prend fin. La semaine prochaine, nous tendons la feuille à une nouvelle fraîchement cueillie.
Cyprès, pin des landes palissandres, mais l'aise tremble, tremble être noyée.